À l'occasion de la journée mondiale du recyclage, mes invités vont évoquer le recyclage. Justement, je reçois Cindy Royer, vous êtes chef de service déchets de Nevers Agglomération. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et Fabrice Berger, vice-président de Nevers Agglomération en transition écologique et aux stratégies d'optimisation environnementale. Bonjour.
Bonjour.
À l'occasion, je le disais, de cette journée mondiale du recyclage, on évoque donc ensemble les écocentres du pré Poitiers Nevers Agglomération et des Grands Prés. On entendra tout à l'heure Nathalie Moreau, elle est directrice de l'ASEM, acteur solidaire en marche, et Jean-Philippe Laverne, directeur lui de l'ANAR, l'association nivernaise d'accueil et de réinsertion, sur leur participation à ces éco-centres, ce qu'ils attendent aussi de cette participation et de leur collaboration avec tous les acteurs. Est-ce que le recyclage, c'est le cœur de ces deux nouvelles déchetteries?
Le recyclage et le réemploi, oui, en effet. D'abord, le réemploi, d'ailleurs, sont en effet la pierre angulaire de ces nouveaux éco-centres. Les éco-centres fonctionnent autour du réemploi. Et on les a vraiment conçus dans ce sens, de manière à ce qu'on vise le maximum d'objets réutilisés. C'est vraiment la pierre angulaire du fonctionnement de ces deux écocentres, avec un maximum de récupération dans tous les devenirs. Nous, on n'appelle plus des déchets, on appelle justement les objets qui sont apportés des devenirs, puisque l'idée, c'est de leur trouver une nouvelle vie. Donc ce ne sont pas des déchets, mais des devenirs.
Avec un objectif que presque 100% de ces devenirs deviennent quelque chose, essayer de tout faire pour les transformer en un devenir, justement.
Oui, alors 100%, c'est optimiste, hein,
ouais,
c'est prétentieux.
Bah oui, bien sûr.
C'est vraiment ce que l'on vit, c'est le maximum de réemploi, de manière à ce qu'il y ait le moins de pertes possible, ne serait-ce que de matières premières, et que le maximum de devenir soit réutilisé, soit réemployé, soit remis dans en fonction, quoi, en utilisation.
Ouais, bien sûr, ouais, au cœur de la vie.
Exactement.
De chacun.
En fait, le but de ces éco-centres, c'est d'aider en fait le consommateur à justement prendre conscience que l'objet peut être réutilisé, être réemployé aujourd'hui. C'est vraiment très important de faire comprendre justement cette utilité d'un objet qui ne devienne plus un déchet, mais qui soit réemployé.
Et inciter aussi les citoyens, les consommateurs à s'arrêter au magasin solidaire, la recyclerie. Comment il va marcher, ce magasin? Est-ce qu'il a déjà ouvert? Pas encore.
Alors, oui, bien sûr, le magasin est déjà ouvert. Aujourd'hui, en fait, les usagers déposent du coup leurs objets à l'éco-centre. Ensuite, ils sont retriés par nos agents. Et ensuite, ils sont soit réparés, soit directement, s'ils sont en très bon état, remis directement à la recyclerie. Et ensuite, les gens peuvent venir les acheter.
Qu'est-ce que vous remarquez pour l'instant à la recyclerie? Quel objet est le plus amené? Quel matériau aussi est peut-être le plus présent?
Beaucoup, c'est surtout des l'ameublement, beaucoup. Ouais. Et aussi, tout ce qui est un peu jouet et tout ça.
J'ai vu aussi qu'il y avait... toujours dans le volet un petit peu recyclage, le recyclage de l'énergie qui allait être évoqué à travers cet éco-centre. Il y a une installation d'un parc photovoltaïque inauguré bientôt.
Alors c'est en parallèle.
Oui.
Ça se trouve sur le même site ou à proximité immédiate. Mais le seul rapport qu'il y a, c'est que, bien évidemment, quand on a pensé les éco-centres, on voulait installer des panneaux photovoltaïques sur les toits. Sauf que ça demandait un tel surcoût d'investissement qu'on ne l'a pas fait. Et grosso modo, le jeu n'en valait pas la chandelle, puisqu'il n'y avait pas des grosses surfaces, alors que à proximité immédiate de l'éco-centre des Grands Prés, nous, Nevers Agglomération, nous sommes propriétaires du terrain et que nous avons l'opportunité alors d'installer à cet endroit un vrai parc photovoltaïque qui fonctionnera beaucoup en autoconsommation, c'est-à-dire que les entreprises qui sont situées dans un périmètre de 2 km à ronde, puisque c'est réglementé, vont pouvoir utiliser directement l'énergie qui va venir de ces panneaux photovoltaïques.
Il y a une zone d'entreprise.
Tout à fait, il y a la zone industrielle de Saint-Éloi, puisque nous avons la chance que Saint-Éloi nous ait rejoint au 1er janvier dernier, enfin pas celui-là, mais celui d'avant, à Nevers Agglomération. Et donc, nous allons donner l'opportunité aux entreprises du secteur d'être desservies en électricité avec ces panneaux photovoltaïques. J'en profite pour vous dire que jeudi, de 16h à 20h, il y a justement une opération de communication, une opération porte ouverte. À la déchetterie des Grands Prés, justement sur cet aspect des panneaux photovoltaïques, parce que outre les entreprises dont je vous parlais tout à l'heure qui vont pouvoir être desservies en énergie par ce parc, eh bien, on va ouvrir le capital à tous les citoyens qui veulent y participer. Et cette première réunion a vocation justement à expliquer comment procéder pour rentrer au capital de cette société.
Et l'objectif aussi d'évoquer le recyclage à travers de nombreux aspects, de sensibiliser aussi encore plus au recyclage. Il y aura des ateliers d'ailleurs qui seront mis en avant dans ces écocentres sur le recyclage, sur l'importance et sur comment ce recyclage fonctionne à travers l'écocentre.
Alors aujourd'hui, il va y avoir une petite salle d'animation justement qui permet justement d'expliquer pas mal de processus de recyclage, ce que fait Nevers Agglomération pour justement aussi ce recyclage-là. Donc il est mis en place. Après voilà, il est à destination des écoles, des collectivités qui sont intéressées. Donc voilà.
Pour venir se sensibiliser justement à ce recyclage. Est-ce que vous avez des chiffres parlant sur le recyclage à Nevers? Est-ce qu'on peut parler de taux de recyclage justement sur Nevers et Nevers Agglo?
Alors le taux de recyclage, oui, donc ça c'est on va dire l'indicateur très important par rapport à au recyclage des agglomérations. Donc aujourd'hui on est à 25% de taux de refus. Donc ce qu'on appelle le taux de refus, c'est entre guillemets le pourcentage qui est mal recyclé aujourd'hui.
D'accord.
Donc aujourd'hui on est à 25% pour notre collectivité. Donc au niveau national, on est dans les normes, on est même plutôt très bons élèves. Donc là-dessus, c'est très encourageant. Il faut continuer à faire baisser ce taux de refus. Donc, voilà.
Comment ça se calcule d'ailleurs? Comment on peut avoir un taux de recyclage? Comment ça se passe?
C'est le tonnage qui rentre en centre de tri.
D'accord.
Et par rapport au tonnage qui sort. Donc voilà, c'est comme ça qui est calculé en fait ce taux de refus.
Et l'objectif, c'est que ce taux, il augmente par rapport à la nouvelle manière de procéder avec cet éco-centre.
Non, il faut qu'il baisse parce que c'est un taux de refus de tri.
Ah oui, refus, oui, d'accord,
voilà.
Ok. Oui.
Donc le taux de refus de tri, il faut qu'il baisse pour justement qu'on ait encore une meilleure qualité de tri, que ça coûte moins cher aussi à la collectivité.
Vous êtes fixé un objectif?
Alors là, non. Pour l'instant, on n'a pas d'objectif précis pour l'instant. Voilà, moi, je suis arrivée il y a 2 semaines à la collectivité, donc j'atterris encore un petit peu. Mais l'objectif, oui, c'est de baisser. Après, on ne s'est pas encore fixé d'objectif précis.
Mais c'est vrai que je prends la main juste pour dire qu'on vient de recruter Cindy qui arrive d'une métropole puisqu'elle arrive de Nantes.
C'est d'accord.
Une jeune fille, voilà, pas longtemps qu'elle a terminé ses études, et quand elle dit que à 25% c'est un bon taux, bon, je la crois parce que elle me met en perspective des grandes métropoles, des grandes villes où il y a beaucoup plus d'habitat vertical, beaucoup plus d'HLM qu'ici, et où on sait malheureusement que le tri se fait beaucoup moins qu'ici. Et quand on préparait cette émission, elle me parlait de taux de refus qui monte jusqu'à 50%. C'est-à-dire que dans les sacs jaunes, pour caricaturer, quoi, dans les sacs jaunes, il y a 50% de déchets qui ne devraient pas y être.
Qui ne devraient pas être dans les sacs jaunes.
Donc 25% pour Cindy qui vient d'une grande ville.
C'est le cas à Nantes, par exemple?
Alors Nantes, c'est compliqué parce qu'il y a eu justement un changement de manière de trier. Parce qu'avant, on était en sac et on mettait tout dans la même benne. Enfin, dans la même poubelle, mais il y avait deux couleurs de sacs. Donc ça avait évolué. Et là, sont repassés justement avec deux bacs différents comme aujourd'hui on a Nevers Agglomération. Donc oui, avant il y avait beaucoup d'erreurs de tri parce que les gens ne triaient pas bien avec les bons sacs, donc il y avait un gros problème là-dessus. Mais ça a permis justement de faire baisser ce taux de refus, et l'objectif c'est de continuer dans ces actions et d'apprendre aux gens à mieux recycler.
Et plus une ville a de bâtiments verticaux, comme vous dites, plus le recyclage est compliqué, c'est ça?
Disons que oui, le message ou les informations des fois ne sont pas passées ou sont mal passées.
Ouais.
Ou alors la population est mal informée aussi sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans le bac jaune, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, qu'est-ce qui va plutôt en déchetterie, qu'est-ce qui peut être recyclé, réemployé aussi. Il y a beaucoup de personnes qui jettent en fait qui ne savent pas qu'un objet, par exemple, peut être réemployé ou être réparé aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de filières justement pour le réemploi, et malheureusement, il y a un manque d'informations aujourd'hui.
Il y a quelque chose qui intéresse beaucoup les gens ici qui nous écoutent, et notamment avec l'arrivée des beaux jours qui vont pas tarder, c'est le devenir des déchets verts. Mmh. Il y a beaucoup qui vont commencer à tondre leur pelouse, à débroussailler, toutes ces choses-là. Mmh. Quel est le devenir des déchets verts, justement, dans cet éco-centre ?
Alors, vous faites bien d'en parler, puisque pour les gens qui ont déjà fréquenté l'éco-centre des Grands Prés, et ce sera le même fonctionnement à l'éco-centre du Pré-Poitiers, il y a deux entrées différentes à l'éco-centre. Oui. Une entrée justement qui est dédiée au gravat déchets, hein, parce qu'à eux deux, grosso modo, c'est plus de 35, c'est un tiers, on va dire, hein, oui. Un tiers des déchets qui sont apportés à l'éco-centre, le reste étant constitué de tout le reste. Hein. Mais il y a deux entrées distinctes, parce qu'un des gros problèmes que nous rencontrions jusqu'alors était justement le temps d'attente de nos concitoyens. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que ça peut les dissuader d'aller en éco-centre quand il y a une demi-heure, voire trois quarts d'heure d'attente. Aujourd'hui, avec l'éco-centre des Grands Prés, le cahier des charges, je veux qu'entre le moment où on arrive, ouais. où on attend, où on dépose les devenirs et on repart, il ne s'écoule pas plus de 20 minutes.
Oui, c'est ça,
donc, donc aujourd'hui, moi j'invite nos concitoyens qui ne sont pas venus encore de venir parce que 20 minutes, c'est rien du tout. Quoi. Et justement, comme vous le dites, avec les beaux jours qui arrivent, il y aura beaucoup plus de déchets verts. Et il y a une entrée qui est dédiée aux déchets verts où c'est beaucoup plus facile qu'auparavant puisque le fonctionnement veut qu'on va vers l'alvéole dédiée aux déchets verts. On dépose tout par terre. On dépose tout par terre. Et pour répondre précisément à votre question, les déchets verts sont ensuite compostés. Ils sont traités par d'autres entreprises qui en font du compost que on revend, enfin non, que l'on distribue gratuitement gratuitement à nos concitoyens dans le cadre d'opérations particulières comme la semaine du compostage.
La semaine du compostage, ouais. Pardon, allez-y.
Non, juste pour dire aussi, pour informer les citoyens, c'est que la collectivité aussi, dis-moi Fabrice si je me trompe, mais on met en place, on met à disposition des usagers, des broyeurs, pour que justement, si par exemple c'est difficile de ramener des branchages ou des déchets verts, enfin des déchets verts, oui, plus compliqués.
Plus imposants, oui, bien sûr.
Exactement. Ouais. Bah, la collectivité peut mettre en place ces broyeurs-là pour justement que l'usager aussi puisse utiliser ce broyat, et par exemple pour leur parterre de fleurs, leur parterre de leur potager, tout ça. Donc, ouais, c'est très important.
Voilà, Cindy, voilà, 15 jours qu'elle est arrivée, pour autant, ben c'est normal, en tant que chef du service déchets, elle va bientôt tout connaître par cœur, mais en effet, on a des opérations spéciales pour le broyage où soit on rembourse la moitié des frais d'une entreprise qui intervient à domicile pour tailler ou broyer, ou soit pour acheter du matériel, parce que le meilleur déchet est encore celui qu'on ne produit pas, donc qu'on n'amène pas jusqu'à l'éco-centre. Et si on peut faire en sorte que nos concitoyens broient chez eux et se servent ensuite, comme le disait Cindy, voilà, des produits qu'ils ont taillés pour pailler, pour mettre au pied des arbres, au pied des fleurs, mais c'est encore bien mieux, parce que ça fait autant de déchets ou de devenir qui ne viennent pas jusqu'à l'éco-centre, et c'est l'objectif final.
Et on rappelle que la semaine du compostage, d'ailleurs, elle a lieu cette année du 29 mars au 13 avril, avec pas mal d'opérations, j'imagine. On aura l'occasion d'en reparler.
D'en reparler, mais notamment la distribution gratuite de compost dans nos éco-centres.
Made in Grand Pré et Pré Poitiers. Je voulais terminer là-dessus, justement, parce qu'on va entendre après l'ANAR et justement l'ASEM, mes deux invités qui vont suivre. Cette participation avec... Alors, on n'a pas parlé d'Emmaüs aussi, également, qui fait partie de ces trois associations qui collaborent avec vous, notamment sur la recyclerie. Elle est importante, ça participe. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de réemploi des objets, mais il y a réemploi humain aussi, finalement, à travers la réinsertion, le réemploi humain à travers cette organisation.
Oui, tout à fait, c'est la base. Quoi. Ce que l'on a voulu faire avec nos éco-centres, ce sont des modèles qui sont vraiment innovants. Et ce fonctionnement d'éco-centre, aujourd'hui, vous ne le trouverez pas ailleurs. Il n'existe qu'ici. Enfin, du moins, il y en avait un précurseur à Perpignan sur lequel on a un petit peu copié, mais surtout qu'on a beaucoup amélioré. Et depuis, beaucoup de collectivités locales viennent voir comment on fonctionne, viennent voir notre outil pour à leur tour le dupliquer. Mais tant mieux si on peut faire des émules. Hein. Et c'est vrai que l'un de nos principes de fonctionnement a été de considérer qu'on a l'habitude de travailler notamment dans le secteur de l'énergie ou des devenirs avec l'économie sociale et solidaire, et qu'on a la chance d'avoir trois structures sur notre territoire, et qu'on allait travailler avec les trois en leur donnant chacun un rôle différent.
C'est ça, bien sûr, avec aussi une sorte de communication entre eux, de complémentarité dans leur possible humain et également qualitatif professionnel. Je rappelle qu'on peut visiter, bien sûr, il y a un parcours de visite et une salle pédagogique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on invite les concitoyens à venir l'utiliser.
C'est une initiative, on va dire, il faut prendre rendez-vous.
C'est pas un accès libre
et c'est pas, il faut prendre rendez-vous avec la collectivité mais c'est à destination, on va dire, d'un certain public aussi, c'est pas grand public,
voilà, c'est uniquement pour des personnes, pour les scolaires ou tout comme ça, par exemple.
Voilà, j'imagine. C'est à but, on va dire, d'éducation.
Des pédagogies.
Oui, exactement.
On va tout de suite écouter l'ASEM, donc mes deux autres invités, l'ASEM et Elanar. Je vous remercie. Merci à vous.
Merci.
C'est nous qui vous remercions. Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Bonjour Nathalie Moreau.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ASEM, acteur solidaire en marche. Vous êtes accompagnée de Jean-Philippe Laverne. Bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur de l'ANAR, l'association nivernaise d'accueil et de réinsertion, qui font partie de ces trois associations locales d'économie sociale, solidaire et d'insertion aux compétences assez complémentaires, qui sont en partenariat finalement avec cet éco-centre des Grands Prés de Pré-Poitiers. Je dis trois associations car il y a également Emmaüs qui n'ont pas répondu à nos sollicitations pour venir évoquer votre participation dans ce projet assez récent. Vous ne participez pas encore totalement au projet. Je crois que l'ANAR a commencé, non ?
Non, en fait, ça sera sur 2025. En effet, c'est un projet de coopération entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire. Et ça a été une volonté, en tout cas, de Nevers Agglomération, d'intégrer cette économie sociale et solidaire dans le cœur du marché public de performance et pour lequel le mandataire est Suez.
C'est ça, exactement, voilà. À travers des missions bien spécifiques selon vos organisations. Juste avant, on va présenter l'ANAR et l'ASEM. On va commencer par l'ASEM, ses missions et puis finalement ses projets.
Alors, au niveau de l'ASEM, donc acteur solidaire en marche, on est une régie de quartier qui intervient sur tous les quartiers de la ville de Nevers et puis généralement sur le territoire de Nevers Agglomération. On va être plus connu vis-à-vis de l'épicerie solidaire et du garage solidaire. Mais l'ASEM, c'est actuellement 90 salariés, dont 72 en parcours d'insertion professionnelle, comme peut le faire l'ANAR. Donc on agit pour le retour vers l'emploi durable en accompagnant les personnes. Après, au niveau de l'épicerie, c'est 5000 bénéficiaires qui sur tout le département qui peuvent avoir accès. Et puis au niveau du garage, c'est à peu près 250 réparations qui ont eu lieu. C'est plus en lien avec la boutique, mais on en reparlera tout à l'heure, qu'on s'est inscrit dans le projet de l'éco-centre et en fait, d'une meilleure qualité de l'environnement et de l'amélioration du tri des déchets, des filières à l'échelle de l'agglo.
Quelles sont les démarches pour pouvoir adhérer à l'ASEM ?
Alors, pour adhérer à l'ASEM, il suffit de demander un bulletin d'adhésion et ça se passe très bien. maintenant, pour bénéficier des services de l'ASEM, par exemple, par rapport à l'épicerie, par rapport au garage, il y a des plafonds de ressources puisqu'on intervient envers et à destination de toutes les personnes qui sont en situation de précarité économique. En gros, on est sur l'allocation adulte handicapé comme niveau de ressources. Donc, si des personnes ont des questions, il ne faut pas hésiter. On est aussi ouvert aux étudiants. On est ouvert à chacun, chaque personne en situation avec des difficultés financières.
Avec cette importance de collaborer avec des organismes privés, publics également, c'est le cas avec cet éco-centre.
Alors, l'habitude de collaborer, on le fait parce qu'on répond régulièrement à des marchés publics. Donc, on travaille à la fois pour des collectivités, pour des institutions, même pour des entreprises ou des associations partenaires. Mais le fait d'intervenir et travailler sur un marché ensemble avec le futur gestionnaire, ça a été une grande étape. En tout cas, un travail intéressant dans les trois structures de l'économie sociale et solidaire et en relation par rapport à une démarche sur laquelle on n'est pas souvent associé. Donc là, même dans l'élaboration, et Jean-Philippe au niveau de l'ANAR est intervenu vraiment très très fortement pour la mise en page de toutes les idées, et ça nous a permis d'avancer. Pour nous, c'était une première.
Cette collaboration de ces trois associations, que ce soit Emmaüs, l'ANAR, l'ASEM, elle est possible que par votre complémentarité ?
Oui, tout à fait. Donc la complémentarité, elle est importante parce que dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est important, même si la concurrence elle a des effets positifs. Mais sur notre territoire, c'est important. La complémentarité, c'est échanger ensemble. C'est aussi trouver des réponses communes, comme l'a dit Nathalie, pour des personnes qui sont en difficulté, en précarité aussi économique, sociale. Et cette complémentarité permet d'apporter des réponses globales pour ces personnes, et s'il n'y a pas de cohérence au niveau des acteurs de l'économie sociale, forcément c'est plus compliqué pour les bénéficiaires. Notre mission, elle est là, en premier.
Qu'est-ce qui différencie l'ANAR de l'ASEM?
Alors, sur l'association, on n'a pas de différence, on est sur le même modèle associatif, avec des gouvernances et des bénévoles qui contribuent au quotidien. Et après, la différence, c'est qu'à notre niveau, en tout cas, on a une partie sur l'hébergement, et l'accompagnement social, en plus de la partie d'entrepreneuriat social, en tout cas sur les ateliers et chantiers d'insertion. Et on a des activités complémentaires sur les activités et chantiers d'insertion. L'ANAR, on est sur le recyclage du papier, on est sur le réemploi du textile, avec une ouverture prochainement, c'est jeudi prochain, d'une friperie sur notre site aussi.
À Nevers ?
À Nevers, au 125 rue de Marzy, donc jeudi 20 mars à 14h, hein, je passe le message. Ensuite, on intervient sur le reconditionnement informatique. Et après, sur les activités similaires, on est sur les espaces verts. Ça, on le fait en commun. Donc là aussi, ça nous permet de répondre aussi en commun sur certaines prestations demandées par les acteurs publics. Et aussi sur le second œuvre bâtiment.
Et c'est typiquement des actions que vous allez mettre en place avec cet éco-centre, typiquement.
C'est des actions qui vont être mises en place, mais là aussi avec une répartition entre les trois acteurs. Donc avec nous, en tout cas au niveau de l'ANAR, on interviendra sur l'éco-centre de Pré-Poitiers, avec la mise en place d'agents valoristes.
À partir du deuxième semestre 2025.
Voilà, c'est ça. Et aussi assurer le transport des objets réemployables sur Grand Pré, pour alimenter la recyclerie qui est gérée, elle, par Emmaüs. Et puis l'ASEM, Nathalie va dire les missions qui leur seront confiées.
Oui, justement, alors comment ça va se passer, vous, dans votre participation à cet éco-centre?
Très bien, merci. Non, plus concrètement, nous on intervient depuis l'ouverture.
Oui, c'est vous qui avez commencé, oui, voilà, d'accord.
Nous on intervient depuis l'ouverture, puisque on intervient sur l'entretien ménager des locaux, sur toute la partie base de l'éco-centre. Hein. Donc, une à deux fois par semaine, il y a une équipe qui vient pour la propreté. Et puis, quand l'herbe aura poussé, on interviendra sur l'entretien de l'espace vert.
Ça va arriver vite, à mon avis.
Oui, tout à fait. Après, je pense que la volonté, c'était d'associer les acteurs de l'économie sociale et solidaire du réemploi par rapport à Nevers. Et effectivement, avec le travail sur la friperie, sur les textiles qui est mené à l'ANAR, la boutique qu'on a sur l'ASEM avec la ramasse des encombrants en partenariat avec Nièvre Habitat, Emmaüs qui est sur le réemploi depuis très longtemps, il y avait une volonté, on veut tous agir pour améliorer la qualité du tri, améliorer la préservation de notre territoire. Et en tant qu'acteur de réemploi, en plus il y a le pôle territorial de compétences par rapport à ce réemploi qui vient d'être créé, donc on est vraiment dans cette dynamique. Et l'ANAR est vraiment très partie prenante puisqu'il y a déjà des projets qui sont en cours dans la friperie.
Combien il y aura de participants au sein de l'ANAR et au sein de l'ASEM?
Alors pour nous, ça va mobiliser du côté de la propriété entre 1 à 3 personnes.
D'accord.
Par contre, au niveau de l'espace vert, il peut y avoir une équipe de 10 salariés qui sont mobilisés dessus. En complément de tout ça, nous, on va intervenir aussi sur l'animation.
D'accord.
Il est prévu qu'on fasse des accueils de grand public en proposant des visites, animations pour découvrir l'éco-centre. Donc là, on reprend, nous, notre compétence animation par le biais de tout ce qui nous lie à la mission citoyenne et les actions liées au contrat de ville et aux projets menés avec les habitants. Oui. Donc dans ce cadre-là, on aura cette spécificité, mais qui est liée aussi à notre savoir-faire, à notre pratique du quotidien.
Et pour l'ANAR, il y aura 2 à 3 agents valoristes qui sont mobilisés en permanence sur Pré-Poitiers, et une équipe de 2 à 3 pour assurer le transport des objets réemployables, mais de façon épisodique. Voilà, en fonction des demandes, mais on sait très bien que tout ce qui est les déchets, maintenant on dit plutôt les devenirs, tout ce qui est réemployable, il y a des quantités phénoménales. Et donc, c'est vraiment agir tous ensemble pour pouvoir préserver les ressources, hein, pour les générations futures et retrouver un réemploi des objets, mais vraiment dans une logique circulaire, locale. C'est pas pour l'envoyer dans le sud de la France, quoi.
Est-ce que vous voyez faire un bilan, je sais pas, toutes les fins d'année, tous les cycles d'année, est-ce que vous faites un bilan de votre participation? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez des objectifs à, entre guillemets, atteindre?
Bah après, le premier qui a les objectifs à atteindre, c'est Suez, hein, ce qui doit rendre des comptes au niveau de l'agglomération de Nevers. Mais si vous voulez, le marché public de performance, qui dit performance, dit indicateur, dit aussi résultat. Et donc, il y a eu des objectifs qui ont été fixés en termes de durabilité. C'est-à-dire que le maximum d'objets à réemployer, la qualité des tri, etc. Et les structures même, en fait, de l'organisation des deux écocentres sont faites pour gérer les flux entre celui qui a déchargé des espaces verts du bâtiment, il y aura un flux particulier. Par contre, celui qui arrivera avec un coffre, avec plein d'objets, c'est pas si c'est un déchet ou on peut réemployer. Là, on doit mettre du personnel pour pouvoir catégoriser le gisement et faire le tri et mettre de côté ce qui est réemployable. Donc c'est important de mettre de l'humain à chaque étape, en fait, de ce réemploi, parce que nous, pour nous, comme l'ANAR, comme la SEM, le sens, c'est l'impact social aussi. Le but, nous, c'est de faire travailler des salariés qui sont éloignés de l'emploi.
Il y aura un roulement aussi, généralement, des
salariés. Bien sûr, il y aura un roulement, et puis aussi de pouvoir travailler sur ces espaces-là, ça permet, comme l'a dit Nathalie, c'est durable. Donc si des salariés s'avancent bien, bah, potentiellement, ils pourraient être embauchés aussi par Suez.
Oui, bien
donc
sûr.
C'est ça notre objectif, notre mission première.
Pourquoi comment vous choisissez justement les salariés qui vont venir participer? Est-ce qu'il y a une sorte de rendez-vous, d'entretien avant?
Après, en tout cas sur l'ANAR, nous c'est du salariat inconditionnel. C'est-à-dire que sur les ateliers chantiers d'insertion, c'est une des forces. On est, je pense, un des seuls acteurs au niveau de l'économie comme la SEM sur les ateliers chantiers d'insertion. Le seul critère de recrutement, c'est j'ai envie de bosser.
Ouais.
Si tu as envie de bosser, c'est parti.
La motivation,
voilà,
bien
même
sûr.
Même si je ne sais pas tailler une haie, même si je ne sais pas faire un ourlet. Tu
apprendras sur le terrain.
Exactement.
Bien sûr, ouais.
Exactement. Ouais. Et ça, c'est une vraie force. Et c'est important de la garder parce que si on est beaucoup, en fait, c'est pas. Il y a une offre d'emploi, il y a une demande que la rencontre se fait. Il faut pouvoir accompagner ces transitions, que ce soit au niveau des chefs d'entreprise comme des employés qui sont à la recherche d'un emploi.
À titre d'exemple, le taux de réinsertion justement par l'ANAR sur une année, par exemple, sur l'année dernière.
Entre 50 et 60% de sorties positives.
D'accord.
Donc emploi durable, CDI, CDD de plus de 6 mois et formation qualifiante.
D'accord.
Voilà, et pour nous, c'est à peu près une trentaine de salariés accueillis en file active et sur l'année, une soixantaine de salariés. Voilà, la durée moyenne de salariat, c'est 12 mois.
Ouais, c'est voilà. Plutôt bien.
C'est d'abord, on a un vrai travail, une vraie expertise, hein, qu'on ne met pas en tout cas assez en exergue. Mais l'objectif aussi pour les prochains mois, c'est de mettre en avant, parce que comme disait Nathalie, la compétence de répondre à un marché public, c'est une vraie technicité.
Ouais,
quand vous traitez avec des majors comme Suez ou d'autres, il y a des personnes qui font ça toute la journée. Donc nous, il faut savoir se mettre en marche et aussi avoir une agilité, des compétences pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est aussi une vraie force des associations. Et je pense que de plus en plus, on va pouvoir mettre en avant notre force parce que l'impact social, il est important. L'impact économique aussi, on est sur des emplois non délocalisables.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est important. Et puis l'impact environnemental, clairement, les enjeux, même s'ils sont bousculés au niveau mondial en ce moment, c'est important de les maintenir à notre échelle.
Oui, bien sûr, et notamment avec cet exemple et cet exemple concret qu'est cet écocentre des Grands Prés du Pré-Poitiers. Est-ce que vous vouliez réagir justement à ça, Nathalie Moreau, directrice de la SEM?
C'est notre travail du quotidien, en fait, d'accompagner la personne pour qu'elle reprenne confiance en elle, et puis au niveau des compétences, faire découvrir plusieurs corps de métier. Ça va être très important, rendre le possible par rapport au retour vers l'emploi. Et autant on peut avoir, ça peut paraître facile d'avoir accès pour faire de l'entretien ménager, parce que tout le monde fait le ménage chez lui. Pour autant, avoir une attitude professionnelle, adopter les bons gestes, la bonne méthode, le bon matériel, c'est tout un travail, tout un process sur lequel la personne elle, est accompagnée. Et pour en revenir par rapport à l'écocentre, du coup, le tri de nos poubelles, déjà des fois on n'est pas très très bon, mais l'agent qui va intervenir sur une action de propreté, il devra d'autant plus être performant, d'autant plus dans ce lieu-là où on va faire attention à tous. tous les volumes, tous les flux qui vont être mis en place. En
oui, bien sûr, bien sûr.
Et la complémentarité entre des valoristes qui vont pouvoir intervenir, entre des gens qui vont porter, transporter, on voit bien la manutention aussi, quel impact ça peut avoir pour un devenir professionnel, comment on les forme, comment est-ce qu'on repère leur qualité et comment on les rassure par rapport au fait qu'ils peuvent faire tel ou tel ou tel métier. Je pense qu'avec nos deux structures, on doit être au moins sur une douzaine de métiers différents qui sont possibles comme marche de retour vers l'emploi.
Et justement, le taux de réinsertion à l'ASM, est-ce que vous l'avez ou pas ?
Oui, oui, on est entre 45 et 55, selon les années, selon les possibilités.
Ouais, les entrées, bien sûr, etc.
Les offres aussi qui nous sont confiées par nos partenaires. Là, de la même manière, on espère que Suez va pouvoir accueillir une ou deux personnes sur des métiers tout au long. On ne leur demande pas d'intervenir, mais permettre d'accueillir quelqu'un dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, c'est déjà lui donner une possibilité d'avoir un lien direct avec un emploi.
C'est une sorte de condition que vous leur demandez avant la collaboration sur un projet comme celui-là ?
À Suez ?
Oui.
Non, on n'a pas mis en condition. Maintenant, pour nous, c'est important. Ils savent très bien qu'on travaille dans le retour à l'emploi des personnes. Et même pour eux, on en avait parlé. Pour eux, c'était aussi une possibilité de repérer des compétences. D'accord. Et peut-être de mieux accompagner quelqu'un et de finir sa qualification. Si, on l'avait évoqué.
Il y a des
évoqué.
Objectifs liés à l'insertion, en fait, par l'activité économique aussi. C'est pour ça qu'on a intégré. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de pouvoir mettre en avant ces complémentarités dans le cadre d'un marché public, ça fixe le cadre. Et puis après, faut le nourrir, faut le vivre. Mais derrière, les rencontres, elles sont plus facilement. Parce que les relations sont déjà indiquées dans le cadre qui est prédéfini. Donc il y a aussi une volonté politique que ça avance dans ce sens-là. Et ça, c'est une vraie force de notre territoire.
Et on aura bien évidemment l'occasion de l'évoquer à nouveau dans plusieurs mois, bien sûr, pour avoir de nouveaux bilans, justement, de ces collaborations avec ces trois associations qui est Emmaüs, l'ANAR que vous représentez, et l'ASEM. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Et on termine ces différents entretiens avec le compostage à travers le CIEN, le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre. Et pour ça, je reçois Laurie Saunier, responsable du service déchets et économie circulaire, et Marine Gallet, chargée de communication. Et elle nous parle d'une journée, porte ouverte d'ailleurs, qui a lieu le 2 avril. Bonjour Laurie Saunier.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service déchets et économie circulaire pour le CIEN et vous êtes en compagnie de Marine Gallet, bonjour.
Bonjour.
Chargée de communication pour le CIEN, le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre. On va parler d'une journée qui arrive le 2 avril à la découverte du CIEN, mais d'un endroit particulier dans le CIEN qui évoque le compost, le compostage, comment on fabrique du compost, les différentes étapes. Justement, ma première question, c'est celle-là. Est-ce que cette journée, elle est là pour comprendre justement comment le compostage se fabrique ? Finalement, on fabrique du compost.
Absolument, on organise des portes ouvertes pour que les gens puissent découvrir ce que deviennent les biodéchets une fois qu'ils sont collectés par les camions poubelles dans leur collectivité. Donc là, ils vont pouvoir venir l'après-midi et voir toutes les étapes de l'arrivée du biodéchet sur site jusqu'à la sortie du compost, qu'est-ce qui devient.
Montrer comment la participation humaine fait que le compost est possible. Peut-être que beaucoup de gens pensent que finalement, il y a juste à attendre que ça se fasse, alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'interventions avant que le compost devienne compost.
Oui, il y a du mélange entre les biodéchets et les végétaux aussi qui sont issus des déchetteries. On va faire un mélange un petit peu, c'est comme une recette de cuisine. On va mélanger des biodéchets, des végétaux. Et après, on va sur le nouveau process que nous, on a installé là en mai 2024. Maintenant, il y a de l'air qui est insufflé. On contrôle l'oxygène en fait pour permettre une meilleure fermentation et accélérer le cycle de compostage. Et après, tout ce compost qui est produit retourne dans nos terres agricoles nivernaises, donc qui sont achetées par les agriculteurs. Et il y en a une partie aussi qui est donnée aux usagers dans les déchetteries.
Ouais, justement, on va revenir sur ce nouveau procédé, ce qu'il permet, et puis le retour, le presque bilan que vous pouvez avoir finalement sur ce nouveau procédé à presque un an maintenant d'utilisation, parce qu'il est disponible à Rouy depuis maintenant un an, depuis le mois de mai dernier. Depuis combien de temps le CIEN récupère les biodéchets ?
Ça fait 15 ans que le CIEN il traite les biodéchets sur son territoire. À peu près 80% de la population trie ses biodéchets et arrive sur nos sites.
Avec une évolution, j'imagine, en 15 ans de la manière de le transformer.
Oui, bien sûr. Avant, c'était plus du retournement. C'était un temps très long de, de fermentation, de maturation pour avoir du compost. Le nouveau process permet justement d'activer un petit peu les choses. C'est pas d'artificialiser, enfin non, c'est pas ça. Ça permet d'accélérer le processus de compostage pour que ça aille plus vite et qu'on puisse produire du compost plus rapidement.
Concrètement, qu'est-ce qui permet ce nouveau
procédé ? C'est vraiment on va broyer les végétaux, on va cribler aussi pour enlever tous les indésirables. Donc ça va être tout le plastique, le mauvais tri qu'on pourra reparler plus tard. Et après, ça va être mis dans des alvéoles fermées qui sont bâchées. Et là, on va contrôler l'oxygène qui va permettre d'accélérer. En fait, c'est des petites bactéries, c'est la décomposition en fait de la matière par les bactéries. Et c'est comme nous, plus on a d'oxygène, plus on chauffe. Et du coup, plus la matière se dégrade. Et ben là, c'est ce nouveau process, il permet ça.
Ce nouveau procédé, il permet un équilibre entre le gain de temps et la qualité aussi.
Absolument, il y a une meilleure qualité, ça va plus vite, on a aussi moins d'envol, parce que vu que c'est bâché, on va dire qu'il y a les oiseaux s'amusent moins à venir récupérer la nourriture qu'ils peuvent prendre sur nos tas de compost, donc ça va plus vite, c'est plus propre, il y a moins d'odeur aussi pour les habitants, parce que du compost, ça quand même, il y a une certaine nuisance olfactive, on va dire. Donc là, ça permet de contrôler un petit peu l'évaporation aussi de l'humidité et des odeurs.
Il y a un impact environnemental précis qui est attendu avec ce nouveau procédé.
Après, c'est d'aller plus vite, d'avoir une meilleure qualité de compost. Notre compost est normé, donc on peut l'utiliser en agriculture biologique. Et donc, moins il y a d'indésirables, plus le compost est bien fait, plus il va être facilement utilisé par les agriculteurs.
Uniquement des agriculteurs, d'ailleurs, qui viennent récupérer.
Il y a des paysagistes aussi, des maraîchers, des agriculteurs, mais c'est voilà, nous, on vend que pour des professionnels nivernais. Et après, ce que je disais tout à l'heure aussi, il y a une partie qui est redonnée à l'habitant dans les déchetteries. Comme ça, ils ont vraiment le cycle. À la maison, je trie mes biodéchets et après, je peux récupérer du compost pour mon potager.
Ouais, ça fait un cercle.
Ça, voilà,
finalement.
Cercle vertueux, ouais. Voilà, c'est ça.
Combien de tonnes de biodéchets, de déchets verts, le site de Rouy accueille, finalement récupère à l'année?
Alors, on a 3000 tonnes de biodéchets qui est traité sur le site de Rouy. Après, sur les végétaux, on a 5 plateformes en tout sur le territoire. Et là, on a 18 000 tonnes de végétaux qui sont traités avec un tiers, on va dire, qui est sur Rouy.
Qui est voué à évoluer finalement avec ce nouveau système ou pas spécialement?
Non, parce que le système est vraiment pour les biodéchets, pour vraiment la partie compost de biodéchets. On produit également du compost que de végétaux.
D'accord.
Selon les sols, les agriculteurs vont choisir du compost de biodéchets végétaux ou que de végétaux. Ça dépend de l'apport qu'ils ont besoin en fait pour leur terre et leur culture.
Ils l'achètent?
Ils l'achètent, ouais.
Combien?
C'est vendu, alors on a le compost de biodéchets qui est vendu à 16 euros tonnes, chargé sur site, et compost de végétaux 12 euros tonnes, parce qu'il y a moins aussi, il y a moins de travail, donc le coût de production est moins élevé.
Et avec une garantie nivernaise, pour le coup,
voilà,
qualité nivernaise.
Qualité nivernaise, et il est normé, donc utilisable en agriculture biologique, ça on fait attention aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs bio, donc on essaye aussi de leur fournir un intrant qui est bon pour l'environnement, quoi.
Est-ce qu'il y a une norme qui garantit finalement la qualité d'un compost, comme il y aurait des normes pour plein d'autres choses, finalement?
Absolument, il est normé, on a des analyses à réaléaliser, c'est la NF044-051, type 5 et 9.
Merci pour la précision.
Voilà, vous voulez une norme, c'est la norme, quoi. Et du coup, ça lui permet justement de l'utiliser en agriculture biologique. Les agriculteurs, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi dans leur terre, et cette norme permet de les utiliser.
D'accord.
Quoi. Parce que s'ils ont un contrôle, et nous, on fournit les analyses avec la vente.
Et alors, il y a quelque chose qui est intéressant, si on va sur le site du Sienne, on peut voir une vidéo d'ailleurs qui explique un petit peu comment ce compost est possible du début jusqu'à la fin, et il y a une grosse partie qui concerne l'air, l'oxygène. C'est ça en fait finalement le nouveau de ce procédé, c'est l'intégration de l'oxygène dans le compost.
Absolument, dans les alvéoles on a des rails en fait qui insufflent de l'air, de l'oxygène, et après on a des sondes aussi qui contrôlent la température, et c'est assez automatisé. Donc s'il y a besoin de plus d'oxygène, puisque la montée en température, ça monte trop en température, il va y avoir plus d'oxygène, ça va s'auto-gérer. On a un superviseur, un ordinateur qui a des alertes, et donc on a un agent, Jérôme, qui est sur site, qui gère la plateforme et qui fait attention à tout cet équilibre pour produire un bon compost.
Ça demande combien de personnes la création de compost du début à la fin?
Là sur Rouy, donc maintenant on concentre tous les biodéchets, on a un agent qui gère vraiment toute la plateforme, et après des fois il a besoin de renfort pour l'aider, parce que comme il y a beaucoup d'apports, avec l'année 2024 qu'on a eu, il y a énormément de végétaux aussi qui sont arrivés, parce que il pleut, il fait beau, ça pousse, hein, tout simplement.
Est-ce que vous avez fait un prévisionnel justement en début d'année
des tonnages?
Par exemple, qui vous dit voilà, vous allez avoir tant de tonnes plus que l'année dernière, moins que l'année dernière, parce que le temps va être comme ça, etc.
On essaye, par exemple, là, sur 2023-2024, on a eu plus 18% d'apport, donc c'est énorme. Donc après, on est vite saturé, on arrive à... La plateforme, elle n'est pas extensible, on ne peut pas accueillir des milliards et de tonnes. Donc là, on se dit, entre 2023 et 2024, on a eu plus 18%, donc il a fallu gérer, le site était saturé. Donc on répartit sur d'autres plateformes, on a la chance d'avoir 5 plateformes en tout sur le territoire. Et là, on espère que 2025, ça sera une année... où il y aura moins de végétaux, quoi. Où les gens aussi vont essayer de...
Et vous vous fiez à la météo un petit peu, quand même?
ça va être la météo qui va dicter les tonnages. Mais après, nous, on n'est pas magicien, on peut pas savoir, quoi. Mais on va traiter ce qui arrive sur site, quoi.
Quels problèmes, justement, sont rencontrés en matière de tri des biodéchets à l'arrivée sur le site? Est-ce que vous rencontrez quand même des problèmes?
Oui, il y a des problèmes de qualité. On appelle ça problème de qualité de tri. On a le geste du tri qui est des fois bien fait par l'usager, mais qui est mis dans un mauvais contenant. Il y a de la mauvaise information sur les sacs biodégradables. S'il n'est pas écrit OK compost, il faut pas le mettre à la collecte des biodéchets. On a aussi des fois, on ne sait pas pourquoi, on a du petit aluminium. Par exemple, je pense que les gens, ils vident leur assiette et il y a encore la petite opercule de médicaments ou il y a la capsule de café. Ça ne rentre pas du tout dans notre process. Pour nous, on appelle ça du refus de tri. C'est des erreurs, des indésirables. Et on a aussi du plastique, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on a des bouteilles en plastique, des emballages en plastique. La grosse problématique de sacs plastiques. Et après, dans les végétaux, là, donc c'est des apports en déchetterie, où là, on peut avoir du métal, les sapins qui sont bombés, enfin, qui sont artificiels. On a un peu de métal, des choses comme ça.
Le pourcentage, il est encore assez fort d'erreurs, justement, de tri.
Justement, on est en pleine campagne de criblage. On essaye de déterminer le taux de refus de tri, on appelle ça comme ça. Donc sur les végétaux, on est à 0,5%, donc ce qui est très bien. Ça veut dire que les gens ont un bon geste en déchetterie et qu'ils font attention. Sur les biodéchets, on va plus être autour de 2-5%. Donc ça est plus élevé, ça reste quand même bien. On va dire on peut mieux faire, mais c'est quand même acceptable.
Parce que c'est aussi peut-être représentatif du territoire aussi, de la zone dans laquelle vous êtes. Peut-être que si on se rapprochait d'agglomérations peut-être encore plus fortes, ce serait plus compliqué.
Absolument, c'est sûr. Oui. Je pense que les gens, quand ils vivent à la campagne, ils ont aussi ce rapport au jardin. Faire attention, ils savent ce qui est biodégradable. Souvent, on le fait à la maison aussi, on a cette éducation. Après, c'est sûr, quand les milieux un petit peu plus urbains, là, des fois, le geste de tri est moins bien fait. Nous, on est le territoire du Sienne, c'est vraiment le Morvan, le sud, donc on va dire que c'est très rural. Mais on a des erreurs sur le plastique. Le principal, c'est le plastique, le problème.
Comprendre le processus de compostage, découvrir le nouveau procédé, assister à des visites guidées, échanger avec des spécialistes, découvrir les nombreux bénéfices du compost. Ça ressemble beaucoup à de la sensibilisation, quand même, cette journée de porte ouverte.
On a fait l'inauguration du process pour nos partenaires, les agriculteurs, les clients, les institutionnels. Et on s'était dit que c'était bien aussi que l'usager et les enfants puissent venir voir... tout le cycle de compostage du camion poubelle qui va vider, on espère, là, au début d'après-midi, je pense qu'il y en aura quand même peut-être un ou deux, qui va venir vider jusqu'au camion d'agriculteur qui va venir collecter. Donc on va expliquer, sensibiliser pour que les gens fassent attention et justement améliorer aussi notre qualité du tri.
Montrer le lien que vous pouvez avoir aussi avec le territoire zéro déchet, zéro gaspillage.
On a eu territoire zéro déchet, zéro gaspillage en 2014, le Sienne. Et après, on a fait énormément d'actions de sensibilisation pour réduire les déchets. Et après, là, les biodéchets, c'est plus du traitement, de la réduction. Mais au moins, si c'est bien fait, ça nous apporte une meilleure qualité. Et nous, on travaille plus facilement.
Qu'est-ce que vous attendez de cette journée du 2 avril? Alors, il y a deux visites, on le rappelle, 14h, 15h30. Absolument. Ça, c'est les deux rendez-vous possibles.
Oui, et on peut s'inscrire directement sur notre site internet ou par téléphone si les gens n'ont pas accès à un ordinateur. Ce qui est attendu, c'est que les gens posent des questions, se rendent compte du travail des agents qui sont faits sur site. Parce que le compost, ça peut se faire tout seul à la maison, mais il y a quand même besoin de retournement, d'oxygénation, d'eau aussi. C'est une recette de cuisine, on a besoin d'ingrédients, on a besoin d'outils. Et donc là, l'idée, c'est de présenter tout ça aux personnes qui sont curieuses de découvrir notre plateforme.
Et donner les bonnes solutions, les bonnes méthodes aux plus jeunes.
Voilà, les bonnes méthodes de tri. Après, on peut aussi conseiller sur le compost à la maison. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'on peut très bien le faire soi-même. C'est assez simple si on s'y intéresse. Et après, on va même donner un petit échantillon de compost produit sur site pour qu'ils puissent l'utiliser et voir que ça sert et c'est utile dans notre quotidien.
Vous parliez d'éducation tout à l'heure. Est-ce qu'une journée comme celle-là peut arriver plus souvent pour les publics scolaires?
Ça serait bien. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Moi, je viens d'arriver au Sienne il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et pour moi, c'est indispensable de communiquer sur ce qu'on fait. Parce que travailler, c'est bien. Mais si personne ne le sait et si on ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est un petit peu dommage. Faut valoriser le travail des agents, le travail des agents de collecte et aussi même de l'usager. S'il fait bien son tri, grâce à lui, l'agriculteur, il va pouvoir épandre du compost de bonne qualité dans ses champs.
Et si des journées comme celle-là se reproduisent, on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler ici sur BAC. En attendant, il y a un rendez-vous pour deux visites à retenir. C'est le mercredi 2 avril, la première visite à 14h et la deuxième à 15h30. Et le lieu, c'est sur la plateforme de compostage des biodéchets du Sienne. Les crocs rouges, je viens de découvrir le lieu, les crocs rouges. Merci à vous.
Merci.
Voilà Bac FM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Je vous donne rendez-vous demain à 13h avec un nouvel invité, les infos de la mi-journée. Très belle soirée à vous et à demain 13h.